On va se mettre en opposition carrée au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution.
Working people, young people, the elderly, all of us need to get involved. We need to take our power into our hands collectively.
Bienvenue au podcast d'Alternative Socialiste.
Bon, bien bonsoir, ici Charles d'Alternative Socialiste, un épisode de plus dans notre série de podcasts. Ce soir, je suis avec camarade Rosalie. Comment vas-tu, camarade Rosalie?
Salut Charles, ça va bien, toi?
Ça va très bien, merci. On est aussi en compagnie de camarade Fred. Comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Excellent. Bon, bien écoutez, un sujet très passionnant ce soir. La dernière fois, on avait parlé de socialisme et de marxisme. Ce soir, on va, sans nécessairement parler de socialisme appliqué, on va parler d'un mouvement de révolte, voire de révolution, dépendamment de quelle position on adopte. Il s'agit ce soir de l'événement de mai 68. Ça va être présenté par camarade Rosalie. C'est un mouvement qui a été très important, pas seulement pour la France, mais dans le contexte de l'année 1968. Je vais m'arrêter ici pour, en fait, poser la première question à camarade Rosalie. Pourquoi mai 68? C'est quoi le contexte économique de la France, finalement, qui va permettre ce mouvement-là?
Ouais, ben, Charles, en fait, l'histoire de mai 68, c'est vraiment l'histoire de la plus grande grève de l'histoire de la France. C'est plus de 10 millions de travailleurs qui furent en grève illimitée pendant plusieurs semaines, en mai et en juin 68. Au plus fort du mouvement, le président Charles de Gaulle, un leader fort et autoritaire, en fait, a fui le pays, désespéré de n'avoir pas pu freiner le mouvement. Et le pouvoir, à ce moment-là, aurait pu être saisi par la classe ouvrière. Mais l'histoire de mai 68, c'est aussi l'histoire d'une grande traîtrise. Traîtrise du leadership de la classe ouvrière et des partis politiques communistes et des organisations syndicales. Et c'est un peu pour ça que je voulais présenter ça ici. Parce que c'est là où on peut apprendre certaines leçons sur le rôle d'un parti révolutionnaire. Mais aussi sur les impasses et les erreurs à éviter pour les organisations syndicales. Et puis, aussi apprendre un peu comment un peu se développer un mouvement. Donc, je vais enchaîner un peu avec le contexte économique.
Ouais, ouais.
Comme tu me l'as demandé. On parle ici d'un boom économique qui a duré, longtemps, là, après la Deuxième Guerre mondiale. Le boom économique le plus long qu'on avait connu à ce moment-là. Et donc, il y a des gens qui parlaient que c'était peut-être... un boom qui allait être sans fin et que finalement le capitalisme aurait peut-être réussi à amortir ces crises. Dans le fond, les employeurs, avec leurs profits grandissants, étaient, disons, un peu plus disposés que d'habitude à accepter les demandes des travailleurs et donc les relations de classe étaient adoucies. Donc c'est pour ça que les gens pensaient que peut-être que le boom serait sans fin et qu'il n'y avait plus de problème avec le capitalisme. Mais les contradictions du capitalisme étaient encore et toujours là, malheureusement, et les conflits qui viennent avec.
Tu m'étonnes.
L'inflation est revenue, ou revenait tranquillement là, dans les années 60. Le danger du chômage aussi réapparaissait tranquillement. Et puis, il y avait une peur de plus en plus de perdre ce qu'on avait gagné. Là. Donc, ça se parlait de plus en plus dans le gouvernement d'augmenter les impôts, de couper les services publics, là, etc. Et donc, avant ce moment-là, la France était vraiment, à cause du boom économique, justement, un terrain fertile pour les idées réformistes. Donc, les organisations de travailleurs avaient un peu abandonné la nécessité du socialisme, la nécessité de changer le système, parce qu'il semblait que peut-être que, finalement, le système capitaliste était bien correct.
Est-ce que je peux te poser une question?
Ouais.
Là, les organisations réformistes, autant partis que syndicats?
Oui.
Dans ce cas-là? Okay.
Je peux y revenir dans 2 minutes?
Absolument. Ouais, okay. C'est très bon, ça.
Ouais, je voulais juste parler un peu du système de l'éducation. Ben, en fait, non, excuse. D'abord, je voulais mentionner que les conditions dans les usines... était assez horrible à ce moment-là. On pourrait penser, bon, la France, après la Seconde Guerre mondiale, un pays capitaliste assez avancé, ça ne va pas être si pire, mais c'était vraiment comparable à ce que nous, maintenant, on imagine étant des conditions dans l'usine dans les pays du tiers-monde en ce moment. Donc, c'était pas joyeux. Et à ce moment-là aussi, on parlait beaucoup, dans le système d'éducation, d'usines d'éducation. Donc, les écoles étaient vues de plus en plus de cette façon-là. Des usines d'éducation pour... éduquer les enfants des bourgeois et des petits bourgeois à ce qu'ils deviennent d'autres gentils bourgeois et petits bourgeois.
Okay.
Donc, il y avait une dissatisfaction grandissante là-dessus. Et on parle de trois quarts des étudiants et étudiantes qui finissaient pas leur programme à l'université, et jusqu'à une demi environ là, qui devaient travailler, évidemment, pour payer leurs études. Donc, il y avait de la dissatisfaction là aussi, et on a vu rapidement apparaître la répression de l'État là-dessus, donc contre ces personnes-là, dans le fond. Et justement, parlons-en de l'État, là, c'était un État très fort, très autoritaire, un régime qu'on dit bonapartiste, donc qui n'avait pas vraiment de support social.
Ah oui, bonapartiste, ok.
Ouais.
Ah, ok. C'est le fun, ça.
Ben, c'est... Ah, ben, ça me fait penser, j'ai oublié de mentionner, en fait, ma présentation est basée sur un livre qui s'appelle Month of Revolution, Lessons of the General Strike par Claire Doyle. Donc, un mois de révolution, les leçons de la grève générale illimitée en France.
Super, puis c'est intéressant d'avoir la perspective. Est-ce qu'on sait si elle est américaine ou...
Anglaise, peut-être?
Anglaise, ouais. Donc, on a un regard extérieur sur la chose.
C'est ça. Exactement. Puis, on va voir un peu pourquoi est-ce que le regard intérieur sur la chose, on devrait peut-être pas lui faire confiance.
OK, c'est ça. Ah bon, OK, c'est bon.
Ouais. Tu me le diras si j'oublie de revenir là-dessus. Mais donc c'est ça, donc c'est les mots en fait de l'auteur, le régime bonapartiste, c'est ça, donc qui n'avait pas vraiment de support social, qui gouvernait par décret, qui ignorait le parlement, qui donc devait être supporté beaucoup par la police et l'armée, dans le fond, là, pour conserver son pouvoir, là. Et entre autres, justement, la police et l'armée, comparée aux autres pays capitalistes avancés de l'Europe du temps, là, avaient vraiment une place beaucoup plus prépondérante, beaucoup plus d'effectifs, etc. De Gaulle, Charles de Gaulle, qui était le président de la France à ce moment-là, essayait de se placer comme une troisième option entre le capitalisme et le communisme. Et donc, il essayait d'apparaître comme une force détachée des intérêts des classes, donc de la classe des travailleurs et de la classe des plus riches, des capitalistes. Là. Mais par sa nature, Charles, on sait bien que l'État va refléter la classe dominante.
Oui, tout à fait.
Et la classe dominante, ben c'est dans un parti capitaliste, c'est la classe économiquement dominante.
Ouais, ouais, ouais.
Donc finalement, De Gaulle était du côté des riches.
Ouais, ok. Bon, c'est clair.
Ouais,
on sait où il loge.
C'est ça. Et puis en même temps, bon, on parle d'un État autoritaire. Qu'est-ce que les États autoritaires font? Ben ils censurent les médias. Ils ont une restriction partielle du droit au débat et à la critique. Et on parle spécifiquement là des représentants du gouvernement qui venait suggérer, entre guillemets, des changements chaque jour à la télé et la radio d'État. Donc, ouais. C'était ça la situation politique, si on veut. Mais il y avait d'autres grands acteurs aussi.
OK. Est-ce que tu vas nous en reparler au cours de... Est-ce que tu voudrais tout de suite parler de ces acteurs-là?
Ouais, c'est ça. Les autres grands acteurs dont on parle, c'est...
Ouais. Mais je vais juste récapituler. Dans le fond, là, je comprends bien, jusqu'à présent, dans notre présentation, dans notre discussion, c'est que il y avait, après la guerre, une montée de l'économie qui, techniquement, promettait un avenir plus radieux, si on veut dire, finalement, dans les contradictions du capital, du capitalisme. Donc, finalement, ça n'a pas été si... glorieux que ça. Et parallèlement à ça, si j'ai bien compris, on a un État de plus en plus autoritaire et que l'on qualifie de bonapartiste.
C'est ça.
C'est bien ça? OK. Ouais. Excellent.
Puis en plus de ça...
OK, oui.
Écoute, il y avait un parti communiste français, soi-disant communiste, on va dire, qui en fait était des leaders réformistes, disons peut-être qui étaient devenus réformistes avec le temps. Donc, eux autres, ils ne voyaient plus l'intérêt de préparer la classe des travailleurs à une transformation sociale. Nous autres, on fait partie d'un parti révolutionnaire et on sait que notre rôle, ouais, nos rôles, c'est de donner des outils, des conseils pour continuer et maintenir la lutte, pour la pousser encore plus loin, pour ne pas capituler, pour éventuellement pouvoir conquérir le pouvoir et les moyens de production et pour préparer le terrain pour la démocratie, la vraie. C'est ça qu'on veut, dans le fond, là, tout ça.
Ouais.
Le Parti communiste français, en fait, a fait tout le contraire. C'est ça qu'on va voir bientôt. Là. Il y avait aussi affilié à eux la Confédération générale du travail, qui est un syndicat, c'est ça, qui était affilié au PCF.
La CGT, hein, c'est bien, je pense que c'est ça.
La CGT, merci. Et puis eux autres aussi, soi-disant, voulaient se débarrasser du capitalisme, Mais ils ont souvent posé des questions pendant le mouvement de mai 68, là. « Oh, on n'est pas sûr si tout le monde dans le mouvement veut aller si loin. » Alors que tous les autres commentateurs à l'extérieur du pays, à l'international, là, tout le monde s'entendait pour dire que c'était des conditions révolutionnaires, que le mouvement en France avait dépassé ce qu'on n'avait jamais vu avant et que les gens voulaient vraiment des changements.
Fait qu'il y avait d'autres gens à l'extérieur qui disaient « Ça y est, là, ça va arriver. » Mais à l'intérieur, c'est ce que tu disais un peu tantôt, que finalement le regard à l'interne n'est pas nécessairement fiable du point de vue de la lutte de classe à ce moment-là.
Exact.
Du point de vue des communistes de cette partie-là.
Okay. C'est ça. Et dans ce pays-là.
C'est intéressant.
Ouais, c'est ça. Et bon, un autre peut-être plus petit joueur, là, le PCI, le Parti communiste international, et son aile jeunesse, la JCR, qui eux ont été très présents dans la lutte en France et qui ont voulu supporter là, l'avènement d'une révolution. Mais, bon, il disait aussi que c'était les étudiants qui devaient mener la lutte, ce qui était un peu arrogant, là, parce que les travailleurs et les travailleuses, on s'entend que c'est eux qui vivent vraiment la situation économique de « on travaille, mais c'est les boss qui ramassent tout l'argent, finalement.
Okay. » Fait que juste pour les gens, mettons, qui vont écouter le podcast, c'est de clarifier que finalement, là, il y a comme deux partis communistes, probablement de deux tendances différentes. Un qui se dit, finalement, réformiste, c'est-à-dire qu'il ne prépare pas l'avènement d'une révolution, c'est le cas du Parti communiste français dont tu parlais. Ouais. Et il y a un autre parti à côté de ça, le Parti communiste international, c'est bien ça?
C'est ça.
OK, qui lui finalement est dans la lutte active avec les étudiants à cette époque-là et étudiantes.
Oui, mais okay. C'est ça qui a l'air de dire bon, c'est les étudiants qui doivent mener, les travailleurs et les travailleuses suivez-les, dites ce qu'ils font. Alors qu'on verra que les travailleuses et travailleurs auront eux-mêmes leurs propres idées très excellentes sur qu'est-ce qui doit être fait et aussi c'est eux qui ont le pouvoir économique à la fin de faire la grève.
Cool.
Alors, c'est vraiment leur pouvoir qui va nous amener plus loin.
Excellent.
OK.
On se fait écouter par les capitalistes, c'est ça?
OK, donc... ouais, c'est pas mal ça. Mais je pense que je suis prête à commencer un peu une ligne du temps. Si
ouais, tu veux nous faire une ligne du temps?
Ouais, c'est ça.
Moi, je pense que ça serait fortement apprécié. Maintenant qu'on a une vue d'ensemble un peu plus de vers où tu t'en vas.
C'est ça.
Puis du contexte économique et politique qui a précédé et qui a... qui s'est formé pendant mai 68. Fait que une ligne du temps.
Ouais. Donc, ça a vraiment commencé, en fait, avec les étudiants en France. Et c'était pas juste là, mais dans plusieurs autres pays, là, entre autres le mouvement contre Franco en Espagne et pour les droits civils et contre la guerre du Vietnam aux États-Unis, là, c'était aussi beaucoup les étudiants qui ont mené ça. Mais donc, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'en France, ça a mené à une grève générale, ce qui n'a pas été le cas contre Franco et aux États-Unis et dans d'autres pays. Ouais. Donc, il y avait vraiment des préconditions matérielles dont j'ai parlé un petit peu, puis je vais m'étendre un peu plus là-dessus, qu'on pourrait nommer le combustible, si on veut, et le bonapartisme de cet état autoritaire de Le Gaulle pourrait être considéré comme le détonateur qui, finalement, a tout fait exploser. Là.
OK.
Ouais. Donc, j'ai déjà parlé du système d'éducation qui était très restrictif, archaïque. Il y avait beaucoup de protestations à ce sujet, surtout de la part des étudiants au départ. Et il y avait une répression vraiment brutale de l'État et de la police. Donc, des arrestations, des suspensions, les écoles fermées, l'Université de Nanterre qui a été fermée le 2 mai, là, décrétée par le gouvernement fermée. Tu sais. En même temps, les enseignants ont commencé à faire des grèves de support qui ont été nommées illégales par le ministre de l'Éducation. Parce que les enseignants aussi voyaient bien, ils étaient dans ce système d'éducation-là, ils voyaient bien que ça fonctionnait pas. Là.
OK. Ouais. C'est intéressant ça, parce que j'aurais eu l'impression finalement que les profs peut-être auraient représenté peut-être plus le statu quo, mais là ce que tu es en train de dire, c'est que non, même il y a un corps professoral qui remet en cause ce modèle autoritaire hiérarchisé, peut-être voire inutilement hiérarchisé et autoritaire.
Ouais. C'est ça, ouais. Et donc, il y avait de plus en plus d'étudiants et d'enseignants envoyés en prison ou qui recevaient des amendes à cause de manifestations interdites, entre autres. Et donc, des grèves à l'université, à l'école secondaire. Et le point de fer de l'État là, qui se refermait vraiment de plus en plus. Et en fait, ça a causé encore plus de colère et plus de détermination. Là. Vraiment, les gens étaient tannés de ces années autoritaires de 10 ans là, avec Charles de Gaulle, en fait. On parle de ça à ce moment-là. Donc, il y a eu à Paris une manifestation de 60 000 personnes, avec beaucoup de brutalité policière, ce qui en fait a amené la sympathie dans la population et chez les travailleurs et travailleuses pour le mouvement étudiant. Ils ont même érigé des barricades à Paris, ce qui n'était pas arrivé depuis 1944, quand les nazis avaient envahi.
À la libération, c'est ça, OK.
Je pense qu'en... quand ils ont été envahis, en fait.
Oh, ça, c'est avant, c'est que probablement
en
1939. Ouais. Ouais, ben, c'est ça, un an de libération.
Quelque chose comme ça.
Okay.
Merci.
Oui.
Bon, donc, on parlait de, en fait, 739 blessés envoyés aux hôpitaux, mais probablement beaucoup plus qui se sont, qui sont pas allés à l'hôpital, là. Et le ministre de l'Éducation, lui, qui parle de fauteurs de troubles. Et puis le Parti communiste français, lui, qui parle de groupuscules, trotskistes, anarchistes, ou peut-être des espions de la CIA des États-Unis qui essaient de faire le trouble, d'empêcher les pauvres étudiants de faire leurs examens.
Okay, okay.
Donc, ils ne reconnaissaient même pas la légitimité d'un mouvement pour avoir des meilleures conditions.
Pour les gens qui nous écoutent, là, on vient de mentionner quand même que le Parti communiste a accusé les groupuscules d'être trotskistes, anarchistes. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent, justement, c'est des tendances se réclamant du socialisme. Nous, d'ailleurs, notre alternative socialiste et notre internationale se réclament de ce courant qu'on appelle le trotskisme. Et pour les gens qui nous écoutent ici, rappeler que finalement, le Parti communiste français était un parti qui suivait de très proche l'Union soviétique stalinienne et post-stalinienne. Donc, ils ont accusé de ces courants-là.
Ouais.
Le Parti communiste, pour discréditer, ils ont dit c'est des trotskistes, c'est des anarchistes. Ok,
exactement.
Bon, ben, les couteaux voient le bas.
Ouais, okay. Exactement, ouais. Bon, donc on parle finalement de plusieurs jours de manifs là, en début mai 68, des batailles dans la rue, et les jeunes travailleurs qui joignent de plus en plus avec des cris de solidarité et de « mettons la police dehors ». Et on se rappellera peut-être qu'après les événements de 1848 en France, la ville avait été redessinée à Paris avec des grands boulevards très larges pour rendre ça plus difficile de faire des barricades, justement. Mais c'était sans compter la solidarité des travailleurs qui prêteront leurs outils aux étudiants pour faire des meilleures barricades.
En 68?
En 68.
OK, OK.
Ouais, ouais.
Wow.
Ouais. Et la police vraiment qui va tout faire sauf tirer des vraies balles là, à ce moment-là pour essayer de détruire les 60 barricades qu'on compte en ville le 10 mai.
60 barricades
ouais.
À Paris.
Ouais, à Paris, c'est ça. Et on voit encore une fois la main de fer de cet état autoritaire de Gaulle, là. Par exemple, il y a tellement eu de gaz lacrymogène utilisé dans le quartier latin que les utilisateurs du métro, donc en dessous, là, étaient indisposés par les gaz lacrymogènes.
Ah oui!
Ouais, ouais.
Juste, ça descendait, il y avait tellement de boucan. Ah, ben, OK.
Ouais. Puis la Croix-Rouge aussi a été empêchée d'aller aider les gens, là, les blessés, là, dans le coin des barricades. Ouais. Donc, c'est ça. Ça allait pas super bien. Mais pendant ce temps-là, dans les usines, les travailleurs et les travailleuses, eux autres, depuis plusieurs années, avaient fait beaucoup de grèves. Il y avait eu même quelques morts là, par la police pendant ces grèves-là. Et on parle de secteurs partout, là. La poste, l'auto, les avions, les taxis, les hôpitaux, les bateaux, les raffineries, les mines, fibres et textiles, là. Mais c'était vraiment de la pression qui était mise sur les syndicats par les travailleurs, donc par en dessous, là, vraiment. Les syndicats, encore une fois, qui étaient réformistes, qui essayaient de calmer les choses, là.
Probablement, on parle, quand on dit réformistes, c'est probablement les directions syndicales, pas nécessairement les membres.
Oui, c'est ça, pardon. Okay. Quand je dis les syndicats, ouais, je voulais dire direction syndicale. Merci, merci. Ouais. Donc, les étudiants vont dans les usines pour aller jaser un peu. Hey, voulez-vous nous donner du support? Puis les travailleurs, justement, je parlais qu'ils commençaient à sentir un peu plus de solidarité et veulent les supporter. Et là, les directions syndicales qui disent « Oh, on va perdre le contrôle, là. Si les travailleurs veulent aller faire des grèves par eux-mêmes pour supporter les étudiants, nous autres, on voulait pas faire ça. » Donc, ils ont été forcés d'annoncer une grève de 24 heures, en fait, vraiment pour relâcher la vapeur, Charles. Mm-hmm. Puis ça, c'est quelque chose qui était utilisé en Italie, par exemple. Ils faisaient des grèves de 2 minutes.
Ah.
Pour que les travailleurs sentent que, OK, on a fait notre grève de 2 minutes aujourd'hui, on se sent mieux, tu sais, on a fait quelque chose pour essayer d'améliorer nos conditions, mais ça change rien, on s'entend.
OK. Puis j'imagine qu'il y avait un contexte un peu différent, mais là, quand tu parles de ces grèves-là de 2 minutes spontanées, c'est dans cette même année-là, à peu près? C'est parallèle
un peu à la mission? Ouais, c'est ce que je comprends. Fait que
c'est vraiment dans le contexte de ce que tu nous disais, là, qu'il n'y a pas juste en France, là.
Exactement.
OK.
Exactement. Ouais. Bon, c'est ça. Donc, le 13 mai, une grève de 24 heures est annoncée par les directions syndicales pour essayer de relâcher la vapeur. Mais les syndicats ne se préparent pas pour une grève générale illimitée, ne se préparent pas pour prendre le pouvoir, ne préparent pas les travailleurs et travailleuses à tout ça.
À la révolution, quoi.
Exactement.
À l'organisation de...
Exactement.
Ouais.
Bon, donc, c'est ça. Et donc là, bon, le premier ministre de France a peur un peu. Alors, il annonce la réouverture de la Sorbonne, la grande université française qui avait été fermée depuis un certain temps, et le retrait de la police de l'université, ce qu'il n'avait vraiment pas voulu faire avant, là. Mais en fait, c'était trop peu trop tard. Donc, les étudiants auront déjà réussi à donner l'exemple à la classe ouvrière qu'on peut faire nos propres demandes, on peut faire nos propres manifestations, nos grèves, et on peut gagner. En fait, ce qu'on peut. Ou on peut avoir du pouvoir sur la classe dirigeante, en fait.
Okay.
Donc, ils ont vraiment réussi à inspirer les ouvriers là-dessus. Et encore une fois, pendant ce temps-là, le Parti communiste français qui parle d'anarchistes qui empêchent encore les étudiants d'avoir leurs examens. Là. Donc,
ah, oui.
Encore une fois,
okay,
aucune reconnaissance. Ouais.
Comme les arguments de droite qu'on avait eus même ici pendant la crise de 2012 venaient d'un parti se réclamant du communisme et... Ah ouais,
absolument.
C'est vraiment un autre univers là, pour eux. Là.
Ouais.
Ils sont déconnectés. Là.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Ouais,
bon.
Ouais. Puis on reviendra justement au stalinisme que tu as mentionné un petit peu. Là.
Ouais.
Mais donc c'est ça. Donc pendant cette grève de 24 heures, bon, les étudiants discutent avec les travailleurs, ils occupent leurs universités, les portes sont ouvertes à tout le monde, ça parle, ça jase. Puis là, les étudiants organisent des dortoirs, des infirmeries, des cantines, des garderies, une commission contre la brutalité policière. Comment est-ce que les examens devraient être? Parce qu'ils s'entendaient que les examens, ça allait pas bien dans leurs écoles.
Ouais,
ça discute de, tu sais, des barricades. On voit vraiment une espèce de société en marge qui se développe un peu là dans les universités. Et les travailleurs, travailleuses commencent à voir ça un peu, et font plus de grèves eux autres mêmes, là. Donc Aviation Sud, par exemple, il y a une grosse grève là, et ils ont vraiment emprisonné, littéralement, leurs 20 gestionnaires dans leur bureau. Là. Ils ont décidé on prend en charge la compagnie.
Aviation Sud?
Aviation Sud,
ok,
ça s'appelle, ouais.
Ils ont mis leurs gestionnaires dans des locaux.
C'est ça. Puis ils ont bâti un comité d'action pour agrandir la grêve à d'autres compagnies, entre autres. Ouais, ouais.
OK. Ils ont poussé le mouvement.
Ça s'organise. C'est ça qui est inspirant, c'est que c'était vraiment les travailleurs qui ont parti ça. Jamais les syndicats ont annoncé ça. Jamais les syndicats ont voulu faire ça, quoi que ce soit, préparer ça. Non, non, non. Ça a vraiment été spontané.
Et une organisation née d'une spontanéité, finalement.
C'est ça, vraiment de la base ouvrière. Là. C'est ça. Et bon, puis justement, pour en revenir au Parti communiste français, qui était staliniste, et qui ne voulait pas de révolution, finalement, en France, parce que s'il y avait une révolution démocratique, c'est vers là que ça s'en allait, que ça soit démocratique, et non bureaucratique, ben ça aurait été un danger pour la survie de l'Union soviétique, qui était, socialiste, mais très bureaucratique, et bon, ça serait tout un autre podcast de parler des problèmes de l'Union soviétique.
Oui, c'est une prochaine fois.
C'est ça. Et donc, ça explique pourquoi le Parti communiste français était devenu réformiste, et avait perdu là, son caractère révolutionnaire, dans le fond. Et donc, ce parti-là luttait, pour des meilleurs salaires, des meilleures conditions, mais sans plus. Sans plus. Et il y avait quelques dissidents, oui, à l'intérieur du PCF, là, qui voulaient supporter la révolution, mais en gros, dans les directions syndicales... dans la direction du parti. C'est ça, merci. C'était pas pro-révolutionnaire. OK, donc on continue un peu, là ça bouge de plus en plus.
OK,
là.
OK. Donc, là, on rentre dans une autre phase là, de la chose. OK.
Donc là, j'ai parlé de comités d'action qui se développaient dans la Loire, entre autres. La solidarité entre les étudiants, les travailleurs et les paysans était très forte. Et il y avait beaucoup de fraternisation contre la confrontation policière. Là. Donc encore une fois, c'est vraiment cet état autoritaire qui a été comme la conflagration là, qui a tout fait exploser, là, si on veut. Et puis les policiers de plus en plus qui se questionnent, ils se sentent un peu comme des clowns ou on parle de mutinerie puis tout ça parce qu'ils se rendent bien compte.
Ah ouais, carrément, ça se discute là, peut-être
dans certains endroits.
Ah ouais,
là.
Ça va loin là. La réflexion là, quand t'es rendu là, le corps policier, là, c'est intéressant.
Ouais. Okay. Ouais, je pense que le corps policier justement est tanné de toujours frapper là, sans savoir pourquoi on frappe un peu là.
Puis j'imagine aussi qu'ils veulent se demander, il doit y avoir des excès là dans notre violence là, vu qu'on se demande pourquoi on tape sur ces gens-là, puis finalement c'est une société qui commence à s'embraser finalement.
C'est ça.
Ok.
C'est ça. Puis la société s'embrase et la société s'organise. Donc là il y a des grèves, donc les gros supermarchés sont fermés. Les petits commerçants restent ouverts, mais dans la Loire, surtout, on surveille les prix. Donc, il y a des comités, puis il y a des gens qui font le tour pour s'assurer que, que les prix sont corrects, que tout le monde va pouvoir acheter ce qu'ils ont besoin. Il y a une distribution de nourriture pour les pauvres. Ça se fait vraiment de bas en haut, là. Puis les gens même disent, on vit le socialisme. Ils sont vraiment tannés. Même en 1968, ils étaient tannés de la société de consommation. Qu'il faut acheter, acheter, là. Même dans ce temps-là, déjà, ça commençait, là. Et puis là, dans les musées, les architectes, les magistrats, là, partout, les gens questionnent leur rôle jusqu'à maintenant et quel sera leur rôle dans la prochaine société.
Là. Dans l'avenir.
Ben, ça se discute comme ça.
OK, là, fait qu'on se projette là, quand même, on se pose des questions par rapport à l'avenir. Là. On a une société finalement qui nous écrase puis on se dit, c'est quoi notre avenir? Non, c'est pas possible, la consommation. C'est ça que je comprends.
Ouais.
OK.
Ouais. Puis pendant ce temps-là, De Gaulle, lui... il est pratiquement fait prisonnier. Les téléphonistes ne veulent pas relayer ses appels. Ils disent on est en grève pour tout le monde, même pour le président. Il est ridiculé dans les manifestations. Ses acolytes lui demandent d'essayer de moins utiliser la police pour justement moins que les gens se lèvent. Là,
trouver une solution politique, quoi.
C'est ça.
OK.
C'est ça. Donc, bon, finalement, De Gaulle va annoncer un référendum pour que la population puisse participer à la politique. On essaie de calmer, mais c'est trop peu trop tard. Les travailleurs ont déjà senti leur pouvoir et commencent à s'en servir. Donc, c'est ça. Il y a de plus en plus de grèves, là. À un moment, il y a 10 millions de travailleurs et travailleuses qui sont en grève. Et donc, les syndicats sont forcés de négocier, finalement. Ils ont le pouvoir de négocier, enfin. Okay. Mais... je veux dire, genre, n'importe quel amateur aurait pu négocier des meilleurs gains que ce qui se négociait là, rendu au 27 mai. Les syndicats ressortent avec certaines ententes avec le gouvernement et ils sont boués par les travailleuses et travailleurs. C'était pas assez, c'était pas suffisant. On avait déjà entrevu toute la possibilité qu'il y avait de changer la société puis de s'organiser entre nous autres, dans le fond.
Ah ouais, OK. Puis là, finalement, c'est comme ça s'évapore un peu cet espoir-là, ou non?
Non, justement, c'est ça. Ils bouent les directions syndicales.
Ils sont allés négocier.
C'est ça. Vous nous donnez quelques...
Des
mieux. C'est ça, là, quelques dollars de plus. Tu sais, pas vraiment des meilleures conditions salariales, tout ça. Là, ça non. On reste en grève. On veut plus.
OK.
Ouais, fait que ça continue, ben, ils veulent vraiment transformer leur vie, leur gouvernement, leur société.
Tout. C'est ça. Fait que finalement, c'est pas juste une affaire de salaire, là. C'était vraiment, on veut que la société soit plus adaptée à nous, voire carrément une autre société.
Absolument. Absolument. Et puis, il y a de plus en plus de solidarité, même à l'extérieur là, de la France comme en Europe. Parce que les gens sont en grève en France, on trouve personne pour imprimer, en fait, les feuilles là, pour avoir le référendum que De Gaulle voulait. Là. Et puis même, je pense que c'est en Belgique là, qu'ils ont voulu faire imprimer ça, et puis les Belges ont dit non, on vous imprime pas ça non plus, on est solidaires avec les Français. Ouais.
Okay.
Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, dans les derniers jours de mai, ben c'est comme tranquille. Les accords que les syndicats ont fait avec le gouvernement sont rejetés en masse par la masse ouvrière. Là.
Mm-hmm.
Et puis là, on attend. Les travailleuses et travailleurs savent pas trop quoi faire. Ils savent qu'ils veulent plus, mais leur direction syndicale les aide pas, finalement. Et pendant ce temps-là, malheureusement, c'est là que la droite va avoir le temps de s'organiser.
OK.
Donc, les comités de défense de la République qui existaient déjà vont refaire surface.
Non intéressant. Parce que comme ça sous-entendait que la République était menacée ou en danger de quelque chose, c'est comme quoi la droite ne peut que jouer sur la peur de quelque chose, finalement.
Voilà.
OK.
Absolument. et même que, en fait, De Gaulle est vu fuyant le pays. Donc, il quitte la France. Pays.
OK.
il a l'air vraiment désespéré, là. Et bon, c'était vraiment une situation dans ce temps-là de, en anglais, ce qu'ils disent « dual power », donc un pouvoir double, c'est-à-dire que, bon, évidemment, il y avait le pouvoir traditionnel de Gaulle,
officiel,
le gouvernement, officiel, okay, ouais, merci, ouais, du gouvernement, mais le gouvernement, finalement, pouvait rien faire, avait les mains attachées dans le dos, c'était vraiment les travailleurs et travailleuses qui vraiment repensait la société et qui faisait que les choses ça roulait là, tu sais, finalement là, Donc, il y avait vraiment deux espèces de pouvoirs, presque deux gouvernements en place, si on veut, là, parce que la classe ouvrière s'était arrangée entre elles pour avoir ses propres comités pour décider de tout plein d'affaires.
Il y avait une conscience de classe vraiment très haute là, ouais. Dans la classe ouvrière, dans c'est la ça. Classe travaillante.
C'est ça. Mais ce qu'on va apprendre après le fait, c'est que De Gaulle, bon, il avait fui le pays, il était parti en Allemagne, et en fait, il était allé retrouver une grande partie de l'armée française qui était à ce moment-là encore en Allemagne. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale.
Okay. Ok, je comprends mieux.
Et donc, il a réussi finalement à obtenir le support de l'armée en Allemagne, qui était prête à revenir en France pour sauver la République, ouais. Justement. donc, De Gaulle revient, il annonce qu'il n'y aura pas de référendum, il se met à parler de peur rouge, peur du communisme... Et puis...
Oui, c'est quand même dans le contexte de la guerre froide aussi. Là, que...
Oui, c'est vrai, merci. Absolument, avec l'URSS, exactement. Et donc, je te parlais d'un État autoritaire, là, mais là, ça rend pire. Là. Mm. Puis il s'arrange pour envoyer en prison les dirigeants, entre autres du PCI et de son aile jeunesse que j'avais mentionné un peu, mm-hmm. qui, eux, ouais. étaient plus pro-révolutionnaires. Là. Finalement, il annonce des élections, De Gaulle annonce des élections à la fin juin, là on est fin mai, et il réussit à avoir 1 million de supporters qui marchent dans les rues de Paris, du monde de droite, des petits bourgeois, des nationalistes, toutes sortes de monde qui, normalement, se tenaient pas nécessairement ensemble, mais okay. qui là, pour encore une fois sauver la République de cette peur rouge... se sont tous retrouvés et puis ils ont organisé des autobus puis tout ça pour avoir le plus de monde possible dans les rues de Paris okay. pour
s'organiser puis lutter contre le... Fred, excuse-moi, Fred, tu veux nous dire quelque chose?
Oui, peut-être juste un petit point par rapport quand De Gaulle il s'en va en Allemagne, il va pas voir n'importe qui, il va voir en fait le général Jacques Massu.
Ok, oui.
Un général qui était pas connu pour... il s'appelait Massu. Hein?
Mais c'est, je pense qu'il était en Algérie, lui.
Lui, il était en Algérie, puis justement, il était accusé par des personnes en Algérie, justement, d'avoir fait des tortures, d'avoir été pas mal un écœur. Hein?
Okay.
Fait que quand il a choisi De Gaulle d'aller voir quelqu'un, il est pas allé voir Monsieur Conciliation, il est allé voir Monsieur Massu, puis c'est pas pour rien. Là.
Okay.
Il voulait pas juste une armée qui l'appuie, mais il allait voir probablement un des généraux les plus... Les plus durs.
Il est allé chercher sa massue.
Oui, il est allé chercher sa massue.
Ouais.
Puis on va avoir une petite pensée pour le peuple algérien aussi, qui se mobilise énormément en ce moment.
Oui.
Tout ça pour revenir à mai 68.
Ouais, ben, tu fais bien, Fred, de mentionner ça, parce que j'allais oublier que, justement, entre autres, De Gaulle s'est arrangé pour libérer, en fait, des terroristes de l'OAS, là, l'Organisation Armée Secrète, qui étaient des gens qui voulait empêcher que la France donne l'indépendance à l'Algérie.
Ok.
Si j'ai bien dit ça, là.
Mais qu'il n'y ait pas d'indépendance en Algérie.
C'est ça, les Français qui voulaient garder l'Algérie en France.
Ok, finalement. Oui. Fait que là, c'est quelque chose de drôle, là.
Ouais, ouais.
Ce que tu me dis.
Donc, ils ont été libérés pour gagner le support de M. Massu, dont tu nous parlais, là.
Exactement.
C'est ça.
Merci, Fred.
Ouais. Donc, il va y avoir des élections. Décidé par De Gaulle, et évidemment, on dit que finalement, la population va pouvoir décider qu'est-ce que les gens veulent vraiment, comme si c'était pas déjà clair qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment, avec les 10 millions de travailleurs dans la rue, les barricades partout, on se réorganise la vie, bon. Et puis là, en plus, les directions syndicales qui disent aux travailleurs, négocier, accepter des ententes, retourner au travail, même si dans d'autres compagnies, ils sont encore en grêve, prenez ce que vous pouvez, puis de toute façon, aux élections, ça va tout se redécider, tout ça, bon. Je parlais de traîtrise, c'est vraiment là, hein. Tu sais, ça a divisé la classe ouvrière, plutôt que la solidarité qu'on avait. Là, c'était chacun pour soi, on veut essayer d'avoir le plus qu'on peut pour notre propre job, notre propre compagnie. Et puis, bon, on verra après pour les élections.
Ah.
Et justement, on aura vu à ces élections-là les pires résultats de la gauche, des socialistes et des communistes, là. Sauf un petit parti que j'avais pas mentionné, là, qui avait été vraiment pro-révolution, puis qui avait vraiment supporté les gens, là, qui ont... Eux autres, qui ont quand même bien fait, mais pas assez pour prendre le pouvoir, loin de là.
OK, c'était quoi ce parti-là,
Le PSU.
OK. Ça, je pense que c'est Parti Socialiste Unifié, quelque chose comme ça.
Ah, ça se peut, ouais, ouais, ouais.
Unitaire.
Unitaire, Parti Socialiste Unitaire. OK, merci Fred.
À trois, on va l'avoir.
Ouais.
Donc c'est ça. Puis là, ben pendant les élections, évidemment la droite en a profité pour avoir pour faire des grandes violences contre les grévistes, les manifestations, détruire les barricades, 1500 arrêts. Les fascistes sortent et s'en donnent à cœur joie pour attaquer les communistes, des immigrants déportés.
Voyons.
Ouais, on pensait pas que l'État pouvait être encore plus autoritaire, mais il a réussi son coup.
T'sais. Mais là, qu'on parle de la période, on peut dire contre-révolutionnaire, là, ça.
Ouais.
Sans que là, c'est le temps de la réaction, là.
Exactement.
Ok.
Exactement. Merci. Ouais. Puis c'est ça. Fait que finalement, De Gaulle va gagner les élections. Bon, ça ne sera qu'un sursis. Il perdra plus tard.
Les élections.
D'autres élections, c'est ça. Puis il va se retirer. Il va se retirer. Ouais. Mais bon, bien vite par après, là, l'inflation va rattraper les gains, les maigres gains que les travailleurs et travailleuses avaient fait malgré leur grève illimitée. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'était pas mal ça, ma ligne du temps, Charles.
Ok, fait que là, tu peux-tu nous faire en une ou deux phrases là, ce que tu viens de dire dans les derniers temps? C'est-à-dire qu'on commence. Si j'ai bien compris, tu peux me corriger, puis justement,
Mais
finalement, il y a eu une construction de la conscience de classe à ses débuts, parce qu'il y avait société autoritaire, société qui ne répondait pas aux besoins réels, puis qui proposait finalement pas d'avenir ni pour la jeunesse, ni pour les travailleuses et travailleurs. C'est comme ça que j'ai compris.
Mm-hmm.
Puis ensuite, t'as escalade, évidemment, t'as manifestation, barricade, escalade de la violence. Là, on a un De Gaulle qui veut faire un référendum, c'est ça, à ce moment-là à peu près.
Ouais. Puis là, pour essayer de s'en sortir.
OK, puis finalement, ça
foire
parce que personne n'imprime, ni la Belgique, personne, OK. Puis là, ensuite, c'est là, finalement, qui s'en va.
Ouais.
OK.
Ouais,
là, il va voir massue. Il va voir massue. Il va chercher sa massue.
C'est ça.
OK. Puis là, ensuite, quand il revient, rappelle-nous qu'est-ce qui se passe, finalement.
Ben, en fait, juste peut-être pour remettre l'emphase sur le fait que pendant que De Gaulle est parti, là, les syndicats et les partis communistes, ils font quoi? Rien.
Ils regardent aller.
Ils disent pas aux travailleurs quoi faire. Tu sais, le pouvoir était là. Ils auraient pu cueillir ça là, dans leurs mains, là. Puis ils ont comme fait, non, mais on n'est pas sûr que les 10 millions... Tu sais, dans ces 10 millions-là, que tout le monde veut vraiment changer la société, là, ils veulent juste un petit peu des meilleurs salaires, c'est tout, on va attendre.
Puis ça termine, oui, vrai.
Je voudrais juste rajouter, peut-être que pendant que, justement, il y avait des bureaucrates comme ça qui bougeaient pas, dans la rue, les manifestants avaient des slogans qui étaient très, disons, dépassaient les demandes, ben, en fait, ou l'absence de demande du Parti communiste. Puis certains trucs, comme certains de leurs slogans, c'était « Soyez réaliste, demandez l'impossible ».
L'impossible. C'est bon, ça.
Ouais.
OK.
Ouais. Fait que,
ça illustre bien aussi ce côté culturel. Là, on n'a pas eu la chance d'en parler nécessairement, mais ça devait être incroyable, la créativité, puis le monde devait revendiquer des choses, justement, qui devaient dépasser les organisations réformistes.
Absolument.
OK.
De loin.
Puis pour revenir sur la fin de la chronologie, donc, on culmine avec une élection... Pire score pour la gauche jusqu'à
là. Et dans
là,
un sens, on peut comprendre le pire score parce que, encore une fois, c'était une traîtrise de ces organisations qui n'ont rien fait pour supporter. Même qu'ils ont essayé de casser le mouvement en séparant les travailleurs des étudiants, en leur disant de capituler, en négociant pas fort finalement.
Okay. Puis là, ça finit avec De Gaulle qui démissionne puis il se retire de la vie politique. Mais là, à la vue de ça, j'ai envie de te demander... c'est quoi les conditions que ça prend pour faire une révolution?
Ben, c'est ça. Il semble qu'on était si proche de la révolution.
Ouais,
donc, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça.
Bon, donc, on parle de 4 conditions nécessaires pour une révolution. La première, c'est qu'il y ait une division dans la classe dirigeante. Donc, certaines personnes se disent, bon, on doit faire des concessions ou non, on doit faire plus de récession.
Mm-hmm.
Et c'était vraiment le cas à ce moment-là. Là, on parle de grandes paniques chez les dirigeants, des bouchons de circulation dans les routes qui s'en allaient vers la Suisse. On se demande pourquoi les gens voulaient aller vers la Suisse, parce qu'ils avaient leur argent là. Il y avait une fuite de capitaux, l'augmentation du prix de l'or. Là, donc, cette condition-là était définitivement remplie. La deuxième condition, c'est que la classe moyenne... commence à bouger aussi la classe moyenne qui se demande toujours est-ce que je suis du côté des travailleurs ou du côté des capitalistes, vers qui aller. Et on voyait que la classe moyenne à ce moment-là donnait vraiment son support actif aux travailleurs et travailleuses, du moins au début, avant que la droite, comme on expliquait, vienne rechercher leur support. Là,
ça réorganise au cas.
C'est ça, c'est ça. La troisième condition, c'est que la classe ouvrière veulent et pensent à une nouvelle société. Puis je t'ai expliqué comment, oui, ça se passait tout à fait là, dans les milieux de travail, dans les différents endroits, là, ça se faisait. La quatrième condition, donc, c'est un leadership marxiste révolutionnaire qui soit à la tête d'un mouvement de masse des travailleurs au travail.
Ça veut dire tout ce qu'a pas fait le PCF.
Exactement.
Si j'en crois ton explication.
Okay. Non seulement ils l'ont pas fait, mais ils ont fait le contraire, ce qui est encore pire.
Là. Ah ouais, ok, fine.
Mais exactement. Donc ouais, ça fait. Manquait. Tu sais, les travailleurs et travailleuses là, cherchaient le leadership, là, mais qu'est-ce qu'on fait? On va où là? Nous, on sait qu'est-ce qu'on veut, mais comment on se rend là? Puis il y a personne qui les a aidés, et puis le mouvement est mort, malheureusement.
Ok. Ben merci pour cette leçon révolutionnaire. Donc, si j'ai bien compris au début, division dans la classe dirigeante. La seconde, c'est le mouvement de la classe moyenne vers les travailleurs et travailleuses les plus précaires. Le troisième point, c'était...
Que la classe ouvrière pense à une nouvelle société et veulent, tu sais, sache même que ça serait possible.
Se disent vers quoi on s'en va, finalement. Puis la quatrième, c'est d'avoir un leadership fort, socialiste, marxiste, révolutionnaire, peu importe comment on l'appelle, mais qu'elle soit révolutionnaire, qu'elle aille dans le sens du socialisme, donc des intérêts des travailleuses et des travailleurs, étudiantes et étudiants. Ça va de soi.
C'est ça.
Donc.
Et c'est ça à quoi nous, on se prépare.
Excellent. As-tu un petit mot? Merci, Rosalie. As-tu un petit mot, par exemple, sur l'actualité? Y a-tu un lien que tu peux faire, mettons, avec les gilets jaunes, rapidement comme ça?
Ouais, un petit peu, ouais. Ben, justement, en janvier 2020, il y a eu un grand soulèvement. Puis là, je me base là-dessus sur un article d'un de nos camarades, Nicolas Croze.
De Belgique.
De Belgique, qui a écrit sur la France, encore une fois. Donc, France, le soulèvement se poursuit contre Macron et la réforme des retraites. Donc, on parle justement de Macron qui a voulu faire une réforme des retraites. Et puis, le mouvement de contestation s'est étendu sur 8 semaines. À la mi-janvier, 60% de la population soutenait le mouvement, malgré, encore une fois, les violences policières. On n'est pas surpris. Les gens des transports en commun, les cheminots en grève d'abord, mais ensuite les enseignants, les raffineurs, les dockers, les avocats, là, tout le monde a suivi. Les pompiers qui retenaient et repoussaient les policiers contre les manifestants. Les pompiers et les policiers... Les pompiers, en support des manifestants, retenaient les policiers qui attaquaient les manifestants. Les gens qui travaillaient dans le système d'électricité envoyaient l'électricité où est-ce qu'ils voulaient. Donc, c'était vraiment comme une redistribution des riches vers les pauvres, là, à plusieurs niveaux. Et encore une fois, on entrevoyait là une société socialiste. Donc cette condition-là était définitivement remplie. Et pourquoi? Bon, qu'est-ce qui se passait dans le fond? C'est que les dividendes des actionnaires étaient à ce moment-là très élevés, donc en janvier 2020. La bourse, ça va très bien. Mais je sais pas pourquoi on doit réformer la retraite. Oh, ça coûte cher. Mais c'est ça, le gouvernement veut augmenter l'âge de la retraite. Un système de points accumulés, c'était pas très clair exactement comment ils voulaient faire la réforme de la retraite.
Mais pour faire court, parce que là, ce que je me rends compte, finalement, ça pourrait être un autre sujet de podcast, parce que ça fait longtemps qu'il y a une retraite en France, puis que ça continue en plus le mouvement, là. Ce que tu me disais, Fred, tantôt, ils ont remanifesté, là, des gilets jaunes, là.
Oui, ben justement, mais Macron aussi a reculé par rapport aux retraites pour ce qui est des policiers.
OK.
Généralement, l'appareil de répression de l'État n'aura pas... besoin de travailler plus longtemps. C'est généralement une constante où les gouvernements un peu autoritaires ou très autoritaires comme ça vont généralement toujours payer des petits bonbons à la police pour être sûr d'avoir au moins une force un petit peu comme la massue de 68 de son côté. Là, dans ce cas-ci, c'est les policiers pour essayer de calmer puis de réprimer au maximum, avec un maximum de violence, les gilets jaunes. Les LBD, les grenades ont été utilisées en France, c'est des quantités astronomiques. Aussi, c'est assez... depuis tout le mouvement des gilets jaunes, mais je pense que c'est un autre sujet.
Ouais. Mais juste pour dire rapidement, c'est ça, le gouvernement de Macron s'est bien rendu compte que il va y avoir des grèves encore, est-ce qu'on veut vraiment ça? Et donc, la stratégie typique des gouvernements de droite, c'est de diviser la classe ouvrière. Donc... De faire certaines concessions parce que tel syndicat préférait telle ou telle concession. Donc là, les syndicats se sont mis un contre l'autre. Non, nous, on veut ça. Non, c'est pas assez. Oui, c'est assez. Donc, c'est ça, une division diviser pour régner, là, pour pacifier temporairement, si on veut. On s'entend que ça va revenir, là, cette réforme-là. Ils vont pas abandonner si facilement. Ils vont juste attendre peut-être une meilleure conjoncture pour eux, pour faire ça. Et puis c'est encore une leçon pour nous là, que la lutte contre ce capitalisme qui nous affecte tellement, là, qui nous opprime, ça doit vraiment être une lutte solidaire. Tout le monde doit être uni pour être contre la droite et contre cet État capitaliste.
Ben, je trouve ça très bien comme mot de la fin. Merci Rosalie. C'était vraiment fort intéressant. Puis je pense que justement, ça révèle finalement les défis à lesquels le mouvement ouvrier organisé, les socialistes comme nous, à quoi on doit répondre. Donc moi, je pense que si je devais retirer une leçon, c'est vraiment d'avoir une organisation. Premièrement, bâtir la conscience de classe chez les étudiantes, les étudiants et chez les personnes qui travaillent, évidemment, mais qui est une organisation politique qui est à la hauteur de cette révolte-là, de ces revendications-là, voire de cette situation pré-révolutionnaire.
Et qui a appris des erreurs du passé.
Voilà. C'est excellent. Ben écoutez, camarades, merci encore une fois. C'est un podcast qui mérite d'être écouté et réécouté dans l'avenir. Je pense que les luttes, c'est pas ça qui va manquer. Je rappelle que nous sommes Alternative Socialiste. Nous sommes la section québécoise de l'Alternative Socialiste Internationale, qui est finalement notre internationale à nous. Nous militons pour le socialisme démocratique et révolutionnaire. Merci Rosalie.
Merci Charles.
Merci Fred.
Merci.
À la prochaine.
Alternative Socialiste est un groupe politique qui lutte pour les intérêts des travailleurs, des travailleuses et de la jeunesse. Joindre Alternative Socialiste, c'est s'impliquer dans la lutte.